on est devant le bloc 11 qui a eu une histoire différente suivant les époques. Quand nous, les femmes venant de France, les 58 femmes et naines, arrivons au camp, on nous amène au bloc 11, qui était un bloc d'arrivante un peu en transition. Ce n'était pas encore un bloc de revire. Et nous avons connu les restes du camp de rééducation où c'était encore 13 en ordre, mais un ordre féroce. Alors on arrive là, et c'était le soir, et des détenus de droit commun allemande avaient jeté ce qui restait de reste de pain, etc., pour ne pas donner aux Français ce qui arrivait. Et on était mal vus. Alors, il y avait des chalis avec les petites housses à petits carreaux bleus et blancs qui devaient être faits au carré, sans ça on était puni. Et par terre, c'était du bois blanc. Il fallait enlever ces pantines. Les pantines, ce sont des babouches à semelles de bois qu'on nous avait données, marcher nu-pieds, parce que c'était nettoyé avec la poudre de chlore, ça devait être impeccable. Et la blocoba ou bloc Elteste, chef de bloc, était une triangle vert, c'est-à-dire une criminelle, et on l'appelait la gueule en or, chose exceptionnelle, elle avait plein de dents d'or qu'elle avait gardées, car c'était une voleuse qui avait tué un boujoutier pour le voler. Ça a été notre chef de bloc au début. Alors on nous a installé un temps là, et il y avait entre le bloc 11 et le bloc 10, que vous voyez, une espèce de petite grille. On ne sortait pas librement dans l'ensemble du camp. Mais dès le lendemain matin, ils nous ont fait sortir et on a marché toute la matinée comme punition avec des Allemands qui chantaient les chants allemands. Il fallait être marché, links, links, le pied gauche, etc. en ordre. C'est le début du bloc 11. Et puis après, nous avons été mis au bloc 5 pour un temps et ensuite au bloc du fond, au bloc 27. Et ce bloc 11 est devenu un bloc de malades, plus tardivement. Et alors d'abord des malades, vous en voyez plusieurs des blocs de malades, parce que au revire central, il y avait des pièces, mais insuffisamment, parce qu'évidemment, il y avait de plus en plus de femmes malades. Alors, les femmes malades, pourquoi les garder? En général, quand on était une travailleuse, par exemple de Siemens, encore jeune et récupérable, ils acceptaient de nous donner quelques jours de repos dans ce bloc. Mais si vous étiez une personne âgée ou trop faible, n'y allez surtout pas parce que vous seriez sélectionné pour un transport. Il n'y avait pas encore de chambre à gaz à Ravensbrück, on était envoyé gazer ailleurs. Donc il fallait faire très attention. Alors le bloc 11 devient bloc de malades et à partir de septembre 1944, on y installe la Kinderzimmer. Si vous voulez me suivre, vous allez voir aussi. Alors, il y a d'abord le dortoir, qui est à trois étages. Il y a le tagasson dans la salle. À l'autre bout, il y a un dortoir. Et à droite, où on mange un peu, etc. Et le bureau de la chef de bloc. Symétriquement au bureau de la chef de bloc, une petite pièce ici en longueur, la Kinderzimmer, la chambre des enfants. Ah, alors ici, donc au milieu et symétrique au bureau de la chef de bloc, la chambre des enfants, une petite pièce. Il y avait une fenêtre de ce côté-là, au bout, petite fenêtre, la porte d'entrée. À droite, une petite table et un lavabo avec l'eau froide. Et à gauche, deux chalis de deux étages chacun, pas le troisième en haut. Et on amenait les enfants après la naissance et je les couchais en travers de certains de ces chalis. Il y en a eu 5, il y en a eu 10, il y en a eu jusqu'à 10 par paillasse, jusqu'à donc 40 enfants, deux rangées en bas, deux rangées au-dessus. Et alors, ces nouveau-nés, on me les amenait, ils avaient sur eux une chemise, une seule couche de change, et un coin de couverture pour servir de linge d'enroulement, ou de charlerie. Voilà. Et alors, donc très peu de change, manque d'hygiène complète, puisqu'on avait juste du robinet d'eau froide, pas de quoi sécher ni rien. Et puis les mères venaient, 5 fois par jour, pour leur donner le sein. Alors, elle tapait à la porte, on leur donnait chacune prenait son bébé et elles allaient s'asseoir dans le tagage room, c'est-à-dire la salle à côté, avec leur bébé. Elles allaient s'asseoir par terre en général pour essayer de lui donner le sein. Alors vous pensez bien que ces femmes avaient très peu de lait, quelquefois quelques jours. En particulier, les tziganes avaient souvent un peu plus longtemps de lait. Elles étaient habituées à la dure, je pense. Quelques Russes. Et même j'ai connu une Russe qui a eu des jumeaux. Et ses bébés sont morts. Et elle est restée pour donner un peu son lait quand elle en a eu encore pour d'autres bébés. Et même cette femme, Mamouchka, nous l'appelons. Il faut tout de même que je raconte son histoire. Parce que la nuit, en principe, personne ne restait. Et comme j'ai raconté à certains, il y avait des rats qui attaquaient les enfants la nuit. Eh bien, Mamouchka se mettait sous le lit en bas, cachée, et elle faisait du bruit pour empêcher que les enfants soient attaqués. Vous voyez, cette femme a été extraordinaire. Bon. Donc, il a fallu trouver un peu de linge pour changer les enfants. Or, au fond, ici, vous avez la Schneiderei, des boutiques où il y avait du tissu, tissage, etc. On a demandé aux femmes de nous trouver un peu de linge et de récupérer pour pouvoir changer un peu les enfants. Et puis, la question du lait. Vous avez vu au Revier Central, où il y avait les dirigeants, le médecin-chef, l'infirmière en chef, la Schwester, l'Aubert Schwester Marshall, grosse brute, etc., qui avait dans un placard du lait en poudre que la Croix-Rouge avait envoyé. Et une de nos amies, le docteur Stanka Nelvedova, dont la photo est d'ailleurs dans le musée, parce que c'est une femme remarquable, à force de la tanner, a obtenu que l'Aubert Schwester donne tous les jours un pot de lait en poudre. Que l'une des trois petites infirmières, jetons une chèque, une Yougoslave et moi, allions chercher à tour de rôle, et on ramenait le pot de lait en poudre accompagné de deux biberons. Hein. Mais deux biberons pour faire boire 30 enfants, remplis au fur et à mesure, impossible en temps matériel. Imaginez un quart d'heure pour chacun, impossible. Bon. Naturellement, pas question de bouillir, nettoyer, c'était l'élémentaire. Bon. Alors, on a appelé l'entraide du camp, et il y a des camarades qui ont été trouver des petites bouteilles, par exemple, les cuisines qui se trouvaient là-bas, au bout, à côté de la douche, là-bas, à l'entrée. Bon. Vous avez la cuisine, différents bas, on trouvait des petites bouteilles. Et la scène suivante, on a essayé de les faire voir, ça ne marchait pas bien, et la scène suivante, reportez-vous au Revier. Dans le premier des grands blocs de Revier, il y avait un beau bureau avec le médecin-chef, le docteur Traet. Et le docteur Traet, de temps en temps, sortait de son bureau, et là, une de nos camarades est rentrée dans son bureau et a volé la paire de gants de caoutchouc du docteur Traet. Et ça nous a fait 10 tétines. Voilà, les choses sont situées ici, au Revier, on avait des échanges réguliers entre Revier, et puis malheureusement, ça s'est terminé presque toujours dans la Keller, c'est-à-dire la morgue, derrière les Reviers, où on emmenait les enfants morts. Voilà, ça boucle l'histoire. Mais l'histoire n'est pas finie pour les enfants. Si j'ai encore 8 ans, je continue. Bon. L'histoire n'est pas finie, parce que les enfants, les bébés étaient de plus en plus nombreux. Par exemple, pendant l'été, il y avait eu l'insurrection de Varsovie. Vous savez, et on a eu beaucoup de Polonaises arrivantes, dont pas mal enceintes. Donc le nombre de femmes enceintes a augmenté, et arrêté dans tous les pays, et comme il n'y avait pas de très 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 peu de place, il y a eu l'installation de la fameuse tente. Une grande tente sur qui est derrière, là, ici. C'est un lieu où on n'avait jamais pu construire de baraque parce que l'humidité, les eaux du lac remontaient. Alors ils ont mis une tente militaire de 50 mètres avec un peu de paille par terre, mais il n'y avait plus ni de seau pour faire ses besoins, ni d'eau à boire, ni rien. C'était un enfer pour celles qui étaient sous cette tente. Bon. Et puis il y a encore donc ces femmes qui ont accouché, et le nombre de bébés augmentait, bien que la mortalité soit énorme, ils en mouraient tous les jours. Ils atteignaient quelquefois jusqu'à vers 3 mois, et là ils mouraient. Alors on a ramené au bloc 11, ici, un peu plus en arrière, dans le tagesroom, la salle à côté, deux nouveaux chalets de 2 étages, 2 en haut, 2 en bas, pour installer le nombre augmenté. Bon. Et comme il y avait toujours trop d'enfants, de nouveau-nés, de frères, etc., ils ont changé l'organisation, c'est-à-dire le bloc 32 qui est au fond, qui était le bloc d'ANN, a été transféré au bloc 24, et ils ont fait au fond un bloc de mères avec nouveau-nés ou de mères enceintes attendant la naissance, qui était dans ce bloc. Vous voyez, au fond. Et moi, je suis restée un certain temps ici au bloc 11, et puis les derniers qui étaient restés, j'étais restée avec les plus fragiles et les malades, ont été également transférés dans ce bloc 32. Dans un coin, il y avait les malades, et puis après, à côté, il y avait les femmes qui allaient accoucher, avec des nouveau-nés qu'elles gardaient avec elles. Donc l'infection, ça marchait très bien, bon, ça mourait très vite. Alors le commandant a trouvé encore une autre idée, il a organisé les transports. Des transports de femmes avec des bébés, des femmes enceintes, des femmes âgées et des femmes avec des enfants plus grands. Et là, je vous raconte l'histoire de la famille Rosenberg. Alors, la famille Rosenberg,